Bonjour Kouchi, je vais essayer de répondre à tes questions donc par rapport à ton exercice que tu demandes hein, de t'aider à résoudre par rapport à l'amplificateur audio. Donc moi je vais partir sur les données que je vois ici à l'écran. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas justes, mais je partirai venir par rapport à ce que je vois. Je vais alors t'apporter un peu mon point de vue par rapport à cela, donc, par rapport à ton énoncé. Donc si je comprends bien, tu es face ici à un amplificateur audio de classe A et donc tu dois en fait ce qu'on appelle rechercher. Donc de calculer les différentes valeurs pour avoir ce qu'on appelle le point de repos, donc ce qu'on appelle le régime statique. Ça veut dire lorsqu'on n'applique aucun signal à l'entrée du système, on met simplement l'alimentation, c'est-à-dire qu'on connecte le 9 volts. Et alors on doit calculer les différentes valeurs des composants pour que le système soit ce qu'on appelle dans un point de repos. Et donc ce point de repos, ce qu'on appelle la polarisation du transistor, devra respecter un certain nombre de règles. Et donc par la suite, lorsqu'on appliquera alors un signal audio, alors nous aurons la fonction d'amplificateur. Mais dans la partie, je vais dire DC, on ne peut pas vraiment parler d'amplificateur. Donc pour commencer, en fait, donc je vois ici que tu as, toi, R1 et R2 qui sont donnés, d'accord? Et donc on peut voir que ces deux résistances peuvent constituer ce qu'on appelle un pont diviseur. Je voudrais aussi, avant d'aller plus loin, dire que en régime continu, on considère que les trois condensateurs sont des circuits ouverts, ça veut dire sont des impédance infinie. Pourquoi? Parce qu'on sait, et ça, tu vois ça sous ma petite feuille, sous ma photo, que l'impédance d'un condensateur, en réalité, c'est 1 sur oméga c, oméga qui est 2 pi f, donc la fréquence d'un signal, ce qui veut dire dans le mode continu, f valant 0, donc le résultat de Zc, donc qui est l'impédance du condensateur, est bien infini. Donc on peut retirer déjà en mode continu tous les condensateurs. Donc ça dit quelque part, tu les supprimes carrément du schéma. Et comme cela, tu vas te rendre compte que ton schéma va déjà un petit peu s'alléger. Alors, pour poursuivre, donc, je le répète, R1 et R2 peuvent constituer ce qu'on appelle un pont diviseur, d'accord? Et donc, on peut utiliser l'équation du pont diviseur. Par contre, il faut être très attentif, c'est que, dis-toi bien qu'un pont diviseur, c'est toujours lorsque la charge qui est connectée à la résistance du bas, hein, est infinie ou très grande par rapport à R2. Ça, c'est la condition importante pour pouvoir utiliser la formule du pont diviseur. Sinon, si l'impédance, donc si la résistance qui est connectée aux bornes de R2, donc en parallèle de R2, n'est pas négligeable, n'est pas assez grande, alors tu ne peux plus utiliser l'équation du pont diviseur. Donc ça, c'est très important. Alors, en règle générale, on considère que si la résistance qu'on appellera entrée, hein, c'est la résistance quelque part, si tu te places entre R1 et R2 et que tu regardes vers le transistor en allant rejoindre la masse, ça c'est ce qu'on appelle ce que le pont diviseur voit comme impédance. Et donc il faut que cette résistance d'entrée, on considère souvent qu'elle peut être de l'ordre 10 fois R2. Ce qui veut dire qu'il faut bien que tu partes sur ce postulat pour pouvoir, si tu veux, continuer la suite de l'exercice et considérer que tu peux bien prendre l'équation donc du pont diviseur. Et donc dans ces conditions, alors tu peux effectivement calculer la tension aux bornes de R2 que je baptiserai moi VA. Regarde sur le schéma que je te donne, donc c'est VA. Et donc VA correspond eh bien égal à 9 volts fois R2 divisé sur R1 plus R2, ce qui veut dire que tu as effectivement une tension de 2 volts au point A, donc à la base de ton transistor. Il faut savoir également que, mais ça je ne peux pas te l'expliquer ici, on considère que REN, donc je rappelle la résistance d'entrée quelque part du transistor, est plus ou moins égal à RE, la valeur de la résistance de l'émetteur, fois le gain, donc HFE, donc le bêta CC, ici qui est de l'ordre de 200. Ce qui veut dire que on considère que si tout cela doit être supérieur au moins ou égal à 10 fois R2, il faudrait alors que REN fasse plus ou moins 40 kilo-ohms, hein, d'accord? Donc du coup, à partir de là, on peut alors déduire la valeur de RE, et donc c'est bien 40 kilo, 40 000 divisé par 200, ce qui te donne la valeur de RE qu'on estimera à 200 ohms. Pour poursuivre, je vois que tu mets toi 0,3 volts entre la base et l'émetteur. En règle générale, comme on parle généralement donc un transistor bipolaire de type NPN, peu importe lequel, hein, on est plutôt souvent dans les calculs de l'ordre de 0,7 volts. Donc moi, je vais poursuivre l'exercice en considérant que entre la base et l'émetteur, j'ai 0,7 volts. Et donc, du coup, on sait alors que VE, donc la tension aux bandes de l'émetteur est bien égale à la tension de la base moins VBE, donc ce qui te donne 1,3 volts aux bornes de la résistance RE. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir alors calculer le courant qui circulera dans RE. C'est important, bien sûr, pour la suite de l'exercice. Et donc, si on respecte et si on suit la loi d'Ohm, tu obtiendras alors une tension, un courant de VE sur 200. Donc, 1,3 sur 200 te donnera 6,5 milliampères. Dans un montage comme celui-là, on sait également que le courant IE est pratiquement égal au courant IC, puisqu'on sait que IE est égal à IB plus IC. On sait aussi par le fait que du HFE de 200 que le IB est 200 fois plus petit que le courant IC. Ce qui veut dire que globalement, c'est pour ça qu'on considère que le courant dans RE, donc le courant de l'émetteur, est pratiquement égal au courant du collecteur. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que ça te permettra alors de poursuivre le raisonnement et de calculer RC. Alors avant de calculer RC, il faut savoir aussi que dans, comme ça a été dit d'ailleurs dans les commentaires au-dessus, que on cherche généralement ce qu'on appelle un point de repos, hein, ok, où la tension VCE entre le collecteur et l'émetteur du transistor se situe à plus ou moins la moitié de la tension d'alimentation, à savoir dans ce cas-ci 4,5 volts. Et donc tu peux voir sur la petite équation que j'ai écrit au point, donc en dessous du point 3, que si je prends la loi d'Emaille, VCC, donc la tension de 9 volts, est égale à la tension aux bornes de RE, plus la tension VCE, plus la tension VRC. À partir de ce moment-là, puisqu'on connaît, nous, VCC, on connaît VRE, on vient de s'imposer un VCE de 4,5 volts, donc on est en mesure, alors, à ce moment-là, d'estimer, de savoir quelle devrait valoir la valeur de VRC. Et donc, il suffit de faire VCC moins VRE moins VCE, ce qui te donne alors 3,2 volts. À partir de ce moment-là, comme tu sais que la tension que tu aimerais avoir, ou devrais avoir aux bornes de RC, il est facile à ce moment-là de calculer RC, puisqu'on sait, selon la loi d'Ohm, que RC est bien égal à VRC, pardon, sur IC, ce qui te donnera 492 ohms au niveau de la valeur de RC. Pour ce qui est de la recherche des condensateurs, je dirais, moi, selon ma vision, il est difficile pour moi de répondre à cette question. Je vois que c'est un vaut 100 micros, peut-être qu'on l'a imposé, probablement. Je dirais que très souvent, on va voir que c'est en régime donc alternatif, lorsqu'on va réellement l'utiliser, le montage, avec donc un amplificateur. En fait, mais ça je peux pas tout t'expliquer ici, mais en fait à ce moment-là tu vas considérer que tes trois condensateurs ne sont plus considérés comme des circuits ouverts, donc des hautes impédances, mais plutôt comme des courts-circuits. Ça c'est le principe même du montage amplificateur audio de classe A en régime alternatif. Et pour que tes valeurs de C, donc le ZC pardon, soient pratiquement égal à zéro, ben on se rend compte, vu l'équation donc de ZC, ça là dépend bien sûr de C, d'accord, mais de la fréquence. Ce qui veut dire que pour déterminer la valeur de tes condensateurs, tu devrais, pour ma part, connaître en tous les cas la fréquence minime de ton signal d'entrée, puisque ton signal audio qui sera appliqué à l'entrée de ton montage, ben il va osciller quelque part entre une fréquence min et une fréquence max. Et donc, pour que ton système fonctionne correctement sur toute la plage de fréquences, ben tu devrais souvent, on part souvent de la fréquence minime qu'on va appliquer au système, et à partir de ce moment-là, on va se dire, ben ok, pour cette fréquence, on voudrait que les condensateurs soient proche de zéro. Souvent, on doit aussi se donner une certaine valeur qu'on accepte, une valeur qu'on considère comme étant acceptable. Et à partir de ce moment-là, alors tu peux déterminer la valeur de tes condensateurs C3 et C2. Donc ça, c'est ma vision par rapport à cela. Peut-être qu'on t'a donné des infos de ce niveau-là, mais voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je te propose. Et donc, voilà, peut-être qu'avec ce que je te dis là et d'autres informations, tu seras en mesure alors de pouvoir les déterminer. Voilà, j'espère j'espère que ce petit audio aura pu t'apporter quelques éclaircissements par rapport à ton problème, en espérant que j'ai pu t'aider par rapport à tout cela. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ton travail. Au revoir.